Identifiez-vous.
C'est moi qui ai répondu à l'annonce.
Affirmatif, je m'en souviens. J'ouvre. Ah, t'es en robe? Ok, si tu veux. Après toi, entre.
Merci.
C'est quoi derrière toi? On dirait une queue de dragon.
Oh, tiens! Y a pas beaucoup de meubles par ici. Tu t'es installé récemment?
Bah non, ça fait 3 ans que je vis ici.
Y a même pas de chaise dans le salon.
C'est normal, je mange debout en faisant du crossfit.
Et dans la cuisine, y a ni four ni frigo?
Y a tout ce qu'il faut. Voilà.
Ce sont des...
Des rations de survie. Il y en a pour 3 mois, 4 jours et éventuellement une matinée.
Ok.
Continuons la visite. Ici, c'est ma chambre.
Mais il n'y a ni drap ni coussin sur ton lit?
Un matelas, un sac de couchage, il n'y a rien de mieux pour dormir.
Ah, au moins t'as mis un poster sur le mur.
Ça c'est la carte de mon prochain stage de survie.
Ah oui, un stage de survie, oui.
On continue. En face, ce sera ta chambre.
C'est normal les cantines militaires par terre?
Gourdes, sacs, bandoulières, munitions, équipement de base.
Tu les enlèveras si je m'installe.
Pas de problème.
Et ça ira où?
Au salon, j'en servirai pour la muscu.
Bon, bah ok. Donc, si je résume, il n'y a pas de chaise pour s'asseoir.
Encore un à qui ça plaît pas.
Que je me trouve un lit.
J'avais bien que c'était une idée pourrie, cette histoire de coloc.
Niveau électroménager, on n'a rien. Bon, bah c'est cool. Quand est-ce que je peux amener mes affaires?
Bah quand tu veux. Faut que tu loues un utilitaire ou que tu te fasses aider, non?
Nah, t'inquiète, j'ai ce qu'il me faut. C'est verrouillé la porte du balcon?
Attends, mais qu'est-ce que tu fous là?
À toutes!
Putain, mon colocataire est un dragon.
Le samouraï et la soubrette. Épisode 6. Dragon Maido.
Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, le podcast où deux colocs vous parlent d'animation japonaise et plus ses affinités. Et là, je peux parler des fesses de dragon ou pas?
Non!
Ça va, c'est bon. Dans cet épisode, donc, nous allons vous parler de la série animée... Kobayashi-san-chi no Meido Dragon, plus connue à l'international sous le nom de Miss Kobayashi's Dragon Maid, que l'on va appeler Dragon Maid durant cet épisode par souci de commodité parce que Xavier est une grosse feignasse.
J'assume complètement.
C'est un animé qui nous vient du studio Kyoto Animation, parfois abrégé en KyoAni parce que les êtres humains sont des grosses feignasses, qui a été diffusé de janvier à avril 2017 à la fois au Japon et en simulcast en France, et dont la version doublée en français est sortie en juillet 2018. Il s'agit d'une adaptation d'un manga sorti en 2013, et à l'heure où nous enregistrons cet épisode, l'anime est disponible sur Crunchyroll, et une sortie en Blu-ray en France est attendue pour cette année chez Kazé. Xavier, peux-tu nous présenter maintenant le pitch?
Oui, pas de souci. On suit donc Kobayashi, une jeune développeuse qui, au lendemain d'une nuit de beuverie dont elle n'a quasiment aucun souvenir, rencontre Thor, un dragon à apparence humaine et en tenue de femme de chambre. Les deux personnages vont apprendre à se côtoyer et apprécier leurs grandes différences. Alors avant d'aborder la partie plus thématique et vraiment de quoi parle l'animé, parlons un peu de technique et en premier lieu d'animation et d'image. Comme souvent chez Kyoto Animation, l'aspect visuel est impeccable, même si le graphisme plus rond et les couleurs pastel tranchent avec l'aspect plus réaliste de leurs productions les plus récentes. Le tempo de la série est adapté à de l'animation standard mais de bonne qualité, d'ailleurs on a le droit à quelques impressionnantes fulgurances, notamment lors de la démonstration des pouvoirs des dragons. Jean, est-ce que tu voulais un peu parler de l'aspect audio, sound design et musique?
Ouais. Au niveau de l'audio, donc je vais commencer par faire un toucher de mot au niveau du sound design, qui est vraiment bon. Comme tu l'as dit, en termes d'animation, il y a quelques passages qui sont assez impressionnants dans l'animé, et le sound design n'est pas en reste. Donc pour résumer, concernant les bruitages, que ce soit tous les petits bruits, les petits sons du quotidien, ou les bruitages qui vont accompagner les scènes un petit peu impressionnantes au niveau animation, sont tous de très bonne qualité et font parfaitement le taf. Concernant du coup maintenant les musiques sont de bonne qualité, elles accompagnent bien les scènes dans l'ensemble. C'est une bande originale qui est plutôt unique en son genre et qui est facilement reconnaissable. Donc en plus de faire le taf complètement durant l'animé, on s'en souvient et on peut la reconnaître aisément si on l'écoute a posteriori. Concernant les pistes associées au moment touchant, je trouve qu'elles font vraiment mouche. Personnellement, les réécouter suffit à me faire revivre ces instants-là et les émotions qui m'ont été transmises par l'animé dans ces moments. Il me semble, Xavier, que tu avais quelque chose à nous dire au niveau des instruments aussi.
En effet, je voulais juste rappeler que cette BO enjouée est assez diverse. Elle est très orientée piano, orgamond et glockenspiel, même si je pense que la plupart de ces sons sont générés par des synthés, mais ils sont surtout... ça donne des sons très chauds et très intéressants et, comme tu l'as dit, très reconnaissables. Là, on va parler un peu de l'opening et de l'ending. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire, donc Jean, vas-y, fais-toi plaisir.
Alors oui, concernant l'opening, donc le générique d'ouverture, pour moi, c'est un incontournable absolu. Il y a quelques très jolis passages en termes d'animation. Il y a aussi des passages complètement fous et complètement loufoques. La fractale des cornes de dragon, par exemple. Les personnages qui lévitent, cette scène où ils sont en lévitation, ils s'envolent, ils tournent en étant en T-pose, donc avec les bras levés dans la lignée des épaules. C'est très curieux. Et puis bon, bah, les fesses de dragon qui dansent, le gros plan sur les fesses de dragon qui dansent, moi j'en peux plus, ça m'achève. Concernant l'ending, donc le générique de fin, il fait le taf, il est beaucoup plus classique, en fait il correspond bien à ce qu'on pourrait attendre de ce genre d'animé, un petit peu comédie tranche de vie, donc il est plutôt enjoué, assez coloré, et animé avec des personnages en chibi, donc c'est les versions miniatures et mignonnes des personnages qu'on a dans l'animé.
Le samouraï et la soubrette.
On embraye maintenant sur les thématiques de cet animé, et je vais commencer par la partie genre, entre guillemets. Dragon Maid, c'est un animé qui est plutôt feel good dans l'ensemble, qui est un excellent antidépresseur. C'est aussi un très bon animé de Noël, d'hiver en général. Plusieurs épisodes se situent autour des fêtes de fin d'année, ce qui inclut Noël et le Nouvel An. La partie romance, maintenant, je voudrais en parler rapidement. Elle est d'abord amorcée comme un ressort humoristique, mais au final, il faut savoir qu'elle est tout à fait crédible et qu'elle est très très bien traitée, donc c'est un excellent point.
Dragon Maid, c'est une série qui a un genre bien à elle, dans le sens où la série ne veut jamais se restreindre à un seul style. Comme tu le disais, comédie, tranche de vie, romance. Pour moi, c'est sa plus grande force, parce que ça lui donne une patte singulière et unique, mais également une forme de faiblesse, parce que elle se montre un peu confuse dans ses intentions à certains moments clés. Je pense que c'est une bonne idée de faire du personnage de Kobayashi une femme. Si c'est un homme, on rentre dans les codes du harem, ce qui, selon moi, aurait nui aux différents sujets abordés dans la série. En parlant de sujets en particulier, j'aimerais qu'on aborde la partie cohabitation-acceptation, qui est un des thèmes les plus développés dans Dragon Maid. Le ressort comique mettant en scène des dragons surpuissants voulant s'adapter au monde des humains est très bien utilisé, et on utilise ça pour montrer l'inaptitude à comprendre les habitudes humaines ou les interactions impliquant l'immense pouvoir, force et magie des dragons. Mais ça montre surtout une série qui est très bienveillante, qui prône en permanence le compromis et l'acceptation des gens tels qu'ils sont, sans jamais nier les difficultés de chacun pour faire ces ajustements-là.
Puisque tu nous parles de difficultés, je vais enchaîner avec la difficulté autour des sentiments, qui est un autre thème bien abordé dans cet animé. Toru est très expressive, mais surtout sincère. Elle est profondément honnête au sujet de ses sentiments. En contrepartie, elle attend parfois des encouragements et des félicitations de la part de Miss Kobayashi. Et cette dernière, de son côté, a vraiment et foncièrement beaucoup de mal à recevoir ses sentiments, à les accepter, et à exprimer les siens en retour. Derrière cet aspect comique, l'animé traite avec bienveillance et beaucoup d'intelligence des sujets sérieux et crédibles et qui concernent plus de gens qu'on ne veut le croire, tout autour de cette thématique de la réception, de l'expression, de l'extériorisation des sentiments. Puisqu'avec tout ça, je vous ai déjà un petit peu parlé de Toru et Kobayashi, je vais embrayer directement sur les personnages. Mon personnage préféré est donc Toru. Ça alors, quelle surprise! C'est le personnage qui alimente la série par son énergie, sa bonne humeur, ses petites manigances aussi, et surtout son expressivité envers les autres personnages. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne quand elle s'absente momentanément. Personnellement, j'ai ressenti un grand vide, et de ce qu'on voit, c'est le cas aussi de certains autres personnages. Kana, quant à elle, est l'incarnation du kawaii, et contrairement à beaucoup de personnages d'animés qui sont associés à cet archétype, elle est tout sauf insupportable, donc c'est également un bon point pour elle. Et quant à Miss Kobayashi, elle est intéressante de par son développement, c'est-à-dire le cheminement qui est suivi tout au long de l'animé, et j'entends par là d'où elle part, qu'est-ce qui la change, comment elle change, ce qu'elle devient, et comment elle vient à en oublier comment elle était avant.
Eh bien, tu vas voir qu'on se complète, parce que si toi, ton personnage préféré, c'est celui de la soubrette, le mien, c'est celui du samour... Attends. Moi, mon personnage préféré, c'est celui de Kobayashi, donc c'est le personnage auquel je me suis le plus identifié. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une certaine subtilité, qui est présenté comme compétente et aidant volontiers les autres dans le cadre de son travail, mais qui a clairement une difficulté, comme tu l'as dit, à s'épanouir et à s'ouvrir aux autres dans sa vie perso. Et accessoirement, c'est le seul personnage, on va dire, régulier dans une collection, une galerie de personnages vraiment haute en couleur. Puisqu'on parle de personnages, il faut que j'aborde le point principalement qui m'a embêté dans Dragon Maid, c'est que j'ai été déçu par le peu d'intérêt des personnages secondaires. Koalt n'est là que pour le fanservice, Elma est transparente, tout comme la copine de Kana, et c'est quand même assez énervant vu que tous ces personnages ont une place non négligeable dans la série, notamment en termes de temps d'antenne, comme on dit. Et surtout, rapidement, ces personnages ne sont réduits qu'à des archétypes mis dans des situations farfelues, ce qui nuit à la cohérence de l'ensemble. Et je trouve que c'est quand même dommageable ce côté unidimensionnel, vu comme la série brille réellement quand elle montre plusieurs facettes d'un même personnage. Et puisqu'on en est à parler des choses qui fâchent, je ne peux qu'adresser qu'un carton rouge au traitement du personnage de Koalt. Koalt, c'est un dragon avec des gros seins et très dénudé pendant les trois quarts de la série. Elle a beaucoup d'interactions avec un gamin de 9 ans chez qui elle vit. Ce ne sont que des prétextes à des scénettes inutiles, lourdes et franchement gênantes et malaisantes.
Effectivement, je suis d'accord avec toi sur ce point. Koalt, que je vais appeler Ketsa, parce que c'est le début de son nom complet, c'est plus facile à dire, je trouve. Le personnage de Ketsa, en fait, ce running gag qu'il y a avec ses gros nichons et le pauvre petit Shota, le garçon, en fait, ça aurait dû être totalement absent, au mieux, ou à la limite, éventuellement, être utilisé une seule fois lors de leur rencontre et être évincé immédiatement après. Ce n'est pas du tout le cas, et si ça me dérange, ce n'est pas du tout par pudeur, c'est juste que c'est intrinsèquement malaisant, parce que c'est imposé à Shota malgré lui, et malgré tout, il oscille manifestement entre « j'en suis la victime » et « je ne dois pas céder à la tentation », et je trouve que ça en rajoute encore plus au malaise. Sans cet élément, pour moi, clairement, l'animé s'approchait dangereusement de la perfection.
Avant d'arriver sur la conclusion, je voudrais parler rapidement de la VF. L'adaptation est de bonne facture, le ton particulier de la série est bien respecté. Les comédiens dans l'ensemble sont bons et respectent le timing comique de la série, ce qui selon moi est le plus compliqué à jouer. J'aimerais noter la performance de Sophie Frison qui est nickel pour jouer le rôle de Thor, et une Fanny Roy qui est méconnaissable avec sa voix grave et un peu cassée dans le rôle de Kobayashi. Pour rappel, et ceux à qui ça rappellera des souvenirs, c'est la voix historique de Ondine dans Pokémon, donc dans un registre radicalement opposé. Moi, en conclusion, si je dois mettre une note générale à Kobayashi, je dirais que c'est une comédie, tranche de vie, romance qui est drôle, apaisante et agréable. Elle sait se montrer vraiment excellente, notamment dans la manière de traiter de façon tendre et très juste ses thématiques, comme l'idée de famille, de choix de vie, de rapport aux autres et au travail, mais se contente de rester sympathique, la faute à des personnages secondaires malheureusement mal exploités.
Et bien voilà, c'en est fini pour ce 6e épisode du podcast Le Samouraï et la Soubrette, consacré à l'animé Dragon Maid. On espère que ça vous a plu, on vous prépare encore d'autres épisodes pour cette année 2021. On vous demande de rester à l'écoute et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À très bientôt.
Je suis en retard ! Tu sais voler ?